La Bible en 24 heures, 24e et dernière session. Il y en a qui ont été ici depuis la première. Pas beaucoup, hein. On espère qu'on pourra mettre tout ça sur un CD. Et donc vous pourrez étudier la Bible en 24 heures. Quand vous avez des insomnies. Je dois dire que c'est plus facile d'étudier un passage donné que d'essayer de résumer toute la Bible. On a vu au cours de ces 24 semaines, de ces 23 semaines, la Bible dans son ensemble. On a fait un survol. On a commencé bien sûr par l'Ancien Testament. Combien de livres dans l'Ancien Testament ? Trente-neuf. Et dans le Nouveau ? 27 pour un total de 66. Très bien. On a regardé l'Ancien Testament avec ses 39 livres. 5 livres de la Torah ou du Pentateuque, les 12 livres historiques, les 5 livres poétiques, les prophètes avec les 5 grands prophètes et les 12 petits prophètes. Les 5 livres de la Torah, on a vu dans la Genèse, le livre des commencements. Dans l'Exode, on a vu la naissance d'une nation. Dans le Lévitique, on a vu la loi d'une nation. Dans les Nombres, on a vu la traversée du désert. Et le Deutéronome, c'est la répétition de la loi qui avait été donnée dans l'Exode et précisée dans tout le Lévitique. On a aussi parlé du fil écarlate, du fil rouge, qui commence dans la Genèse. Lorsque, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a dit à Satan, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, qui t'écrasera la terre » en 15. C'est la promesse que Dieu allait racheter le monde au travers de la race humaine, c'est-à-dire le Messie. Le fil écarlate, c'est le sang de Jésus qui était annoncé et qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Pour faire arriver ce Messie, il a commencé par un homme, Abraham, une nation, le peuple juif, la tribu, celle de Jacob, c'est la Genèse 49, la maison de David, une seule famille, ça c'est dans 2 Samuel 7, et on a regardez les livres historiques. Alors le premier de ces livres, c'est le livre de Josué. Josué qui succède à Moïse à la tête du peuple juif pour entrer en terre promise. Josué, c'est la conquête du pays, de la terre promise, et la victoire sur les géants, les Néphilim, et sur les Cananéens qui occupaient le territoire. Le livre des juges qu'on est en train d'étudier le dimanche, ça décrit les 300 premières années de la théocratie. Dieu a quelque chose de mieux à proposer que la démocratie. C'est lui qui règne, la théocratie. Malheureusement, l'histoire des juges nous montre que les hommes livrés à eux-mêmes, gouvernés par Dieu, avaient tendance à faire ce que bon leur semblait et à tomber dans le péché par cycle. Dieu les pardonnait, Dieu leur envoyait un sauveur, mais ils continuaient à retomber dans le péché quand les choses allaient bien. Et lorsqu'on étudie la Bible, encore une fois, c'est pas le tout de dire que c'est des histoires qui sont arrivées dans le passé, ce sont des histoires qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et le cycle du péché qu'on voit dans le livre des juges, ça peut être aussi le cycle du péché dans notre vie. Et si on veut éviter bien des tourments, il faut qu'on apprenne de ces exemples. Après le livre des juges, il y a le petit livre de Ruth. C'est un tout petit livre qui n'a que 4 chapitres, mais qui est la clé de beaucoup de choses pour comprendre l'ensemble de la Bible. Notamment avec ce concept du Goël ou du parent qui rachète. Dans la Bible, on peut racheter un territoire, un terrain, une maison, une propriété foncière qui a été vendue. On peut racheter un esclave, on peut même racheter une postérité à un parent qui n'a pas pu avoir d'enfant. Mais la clé pour que ce rachat puisse avoir lieu, c'est ce qu'on appelle des fois en termes un peu théologiques la rédemption, le rédempteur, c'est que la personne soit un proche parent, que la personne ait les moyens de faire ce rachat, et surtout que la personne ait le désir de le faire. Et ça, on a déjà rappelé que c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est un parent parce qu'il s'est fait homme. Jésus-Christ qui a les moyens de nous racheter parce qu'il est Dieu, il est le Dieu qui s'est fait homme. Et surtout, il a le désir de nous racheter parce que Dieu est amour et il nous aime. Il ne veut pas nous voir souffrir, comme le partageait Jen. On peut penser que Dieu est un Dieu sévère, un Dieu méchant, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Dieu c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime, qui attend qu'on vienne à lui, qui ne va pas nous forcer la main, mais qui fait tout pour qu'on le connaisse. Après le livre de Ruth, on a vu 1 Samuel et 2 Samuel. 1 Samuel c'est la naissance du royaume et de la monarchie. Les Israélites se plaignent, ils veulent avoir un roi comme tout le monde, donc Dieu va accéder à leur demande, leur donner le roi Saül, qui va se révéler une catastrophe. 2 Samuel, on va voir le règne du roi David, qui va conduire à l'apogée du royaume d'Israël dans l'histoire, avec le règne du roi Salomon. Mais bientôt, le récit de 1 roi et de 2 rois va nous montrer que le royaume va se diviser. Ça va être la guerre civile. Et le deuxième livre des rois, c'est l'histoire de ce royaume divisé, avec la succession des rois dans le royaume du nord et le royaume du sud. 1 chronique et 2 chroniques, c'est une récapitulation de toute cette histoire, notamment de celle du règne de David, et de celle du royaume du sud, le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, royaume par lequel allait se faire l'arrivée du Messie, ce Rédempteur, ce Dieu qui se fait homme par amour. Pour prendre la Genèse, la succession des patriarches, d'abord le péché originel, Noé et l'arrivée d'Abraham, Isaac, Jacob, et les 12 tribus d'Israël qui sont présentes dans tout le récit biblique. Si on a séché les cours sur la Genèse, on ne va rien comprendre. Donc, important de bien comprendre tout ce qui est décrit dans la Genèse. Le reste de l'Ancien Testament, c'est une fraction du temps qui est décrit dans la Genèse, et le Nouveau Testament, en comparaison de ça, ça ne représente en fait que la durée d'une vie, à peu près. On sait que les deux testaments sont séparés par une période de silence de Dieu, où Dieu ne se manifeste plus pendant 400 ans. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apparitions, il n'y a plus de messages de Dieu. Quelque part, le silence, ça peut être la plus sévère des punitions. Je sais que je suis méridional, mon père était corse, porte un nom corse. Nancy, par contre, a un héritage gallois et germanique, des gens du Nord. Et moi, quand je me mets en colère, ça sort. Et Nancy n'aime pas ça. Et pour me le faire savoir, elle adopte le silence. Et le silence, pour moi, c'est plus terrible que l'engueulade. Quelque part, dans l'histoire de Dieu, il a cette période de silence terrible, où les hommes peuvent se demander, est-ce que Dieu en a vraiment fini avec nous ? Et lorsque l'on découvre le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui priaient pour que Dieu reparle, leur reparle. Le royaume du Nord est allé de mal en pis. Il a fini par être emmené en captivité et détruit par qui ? Le royaume du Nord, c'était Samarie. Quelle grande puissance les a emmenés en captivité ? C'était le roi Sargon en 721 avant Christ. Ça, c'est, s'il y a deux dates à connaître dans l'Ancien Testament, c'est 721 et 586. C'est les dates d'exil du royaume du Nord qui a été emmené par l'Assyrie. Elle apostrophe les Assyriens, pas les Syriens, mais les Assyriens. L'Assyrie a été elle-même conquise par qui ? Par la Grande-Bretagne ? C'est presque ça, c'est un peu en avance, c'est par Babylone. C'est vrai qu'il faut aussi connaître un peu l'histoire des grands empires de l'époque pour bien mettre les choses en place. La Syrie a été remplacée par Babylone. Les deux nations ont commencé à se mélanger. On a parlé des différents prophètes et des règnes des rois du Nord et du Sud auxquels ils correspondaient. La captivité à Babylone, c'est un événement majeur de l'histoire d'Israël. Combien de temps a duré l'exil à Babylone ? 70 ans. Ça a commencé essentiellement en 586. Il y a eu plusieurs vagues d'exil, plusieurs vagues d'attaques de Babylone sur le royaume d'Israël. Mais en 586, en gros, Juda, le royaume du Sud, a été emmené en captivité à Babylone. Puis on a vu la période après l'exil, des fois on parle de la période post-exilique, ça veut dire simplement après l'exil, ça fait plus théologique, plus pédant, mais ça veut dire la même chose. On a vu trois livres, le livre d'Esdras, de Néhémie et d'Esther. À l'époque, il y a trois grands prophètes qui sont âgés, ou Haggai en anglais, Zacharie et Malachie. Esdras, il parle du retour de la captivité et de la tentative de reconstruction du temple par les Juifs. Leur problème, c'est qu'ils sont victimes des attaques des ennemis parce qu'ils n'ont pas encore rebâti la ville de Jérusalem. Néhémie, le livre qui suit, nous raconte l'histoire de ce haut fonctionnaire qui avait la muraille qui entourait la ville. Et ce fameux livre où d'un côté ils avaient l'épée et de l'autre ils avaient la truelle pour reconstruire Jérusalem et sa muraille. Esther, c'est l'histoire incroyable du peuple juif échappant à l'extermination. Pendant la domination de l'Empire, quel empire ? Alors, on a eu les Assyriens, les Babyloniens, après ça a été les Médo-Persiens. Il y a eu les Mèdes et les Perses, mais on peut dire globalement les Perses. Après ces livres historiques qui sont donc au nombre de combien ? Il y a cinq livres du Pentateuque. Pentateuque, ça veut dire cinq livres. Il y a 12 livres historiques. Après, il y a des livres poétiques. Il y en a combien des livres poétiques ? 5. C'est quoi les livres poétiques ? Les psaumes, proverbes, cantiques des cantiques, l'ecclésiaste, qu'on appelle le Kohelet aussi, et puis le livre de Job. Oui. Le livre de Job, c'est peut-être le plus ancien livre de la Bible et il parle de quel problème ? Pourquoi est-ce que le juste souffre ? L'innocent souffre-t-il ? Et ça, c'est une question justement, un peu comme Jeanne disait, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance ? Et la Bible a des réponses béton. Pour dire qu'en fait, la souffrance, ce n'est pas Dieu qui la veut, Dieu peut la permettre, c'est parce que l'homme a rejeté Dieu et maintenant il paye les conséquences. Les psaumes, c'était un peu le recueil de chants. C'était les transparents d'Israël. Quand ils voulaient chanter, pof, ils prenaient les psaumes. Qui allait l'auteur des psaumes ? David ? Alors, David, on dit souvent c'est l'auteur des psaumes, il en écrit beaucoup, mais il y a eu d'autres auteurs, dont Salomon, Asaph et d'autres. Il y a plusieurs auteurs. Par contre, les proverbes, c'est qui a écrit les proverbes ? Salomon, qui avait reçu de Dieu la sagesse, parce qu'il avait... Dieu lui avait demandé ce qu'il voulait dans un songe et Salomon lui avait dit « Demandez avant tout la sagesse pour gouverner, pour traiter des problèmes de roi qui était son lot. » Parce qu'il n'avait pas demandé les richesses, la beauté ou des ressources, Dieu lui a non seulement donné la sagesse, il a été l'homme le plus sage jusqu'à un point, on verra, mais il lui a donné les richesses, il lui a donné le pouvoir, il lui a donné le plus grand royaume de l'époque. Sa chute, ça a été son amour des femmes. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Alors c'est vrai, souvent à cette époque, on épousait, les mariages, c'était plus des alliances politiques, c'était pour établir sa puissance que pour répondre à des besoins affectifs ou d'ordre sexuel immense qu'il aurait eu. Mais son problème, c'est qu'avec ses femmes, il a amené l'idolâtrie, les faux dieux de ces peuplades non juives. Qui a écrit l'Ecclésiaste ? C'est Salomon aussi, le Coëlète aussi. Et là, c'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre assez pessimiste qui dit qu'en fait, vanité des vanités, tout est vanité. Et ça, c'est... Il faut faire attention quand on lit ce livre parce qu'on peut penser que la Bible nous donne une vision très pessimiste de l'existence. La fin du livre nous montre que c'est une vision pessimiste que l'on a lorsque l'on n'exclut Dieu et qu'en fait l'existence n'a aucun sens si on n'a pas reconnu que Dieu existe, si on n'a pas reconnu que Dieu est vivant, qu'il nous aime, qu'il veut avoir une relation avec nous. Et puis il y a ce livre mystérieux, un peu mystérieux, le Cantique des Cantiques, qui a été écrit par qui? Alors, on pense que c'est aussi Salomon. On ne sait pas trop qui étaient les personnages exactement. Mais c'est un livre qui montre que la Bible n'est pas gênée par la sexualité, par le sexe, comme on dirait aujourd'hui. Et en fait, le sexe, c'est Dieu qui l'a inventé. Et le sexe, ça peut être une très belle et très bonne chose dans le cadre que Dieu a prévu pour cela, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. L'ennemi, le diable, a vite fait de prendre cet aspect de la façon dont nous sommes constitués pour en faire une source de péché, une source de malheur. Et encore une fois, ce livre parle de façon très ouverte, même très crue, de l'intimité amoureuse d'un homme et d'une femme, à tel point qu'il était interdit pour les étudiants juifs qui voulaient devenir rabbins, tant qu'ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas le droit de lire ce livre. aurait pu dire qu'ils se reproduisent par bouture. Coupe son petit doigt, on le met dans la terre, et hop, il y a un petit Sébastien qui apparaît 9 mois après. Pour moi, c'est une conviction tout à fait personnelle, c'est pas biblique, mais pour moi, cette sexualité, cette intimité entre l'homme et la femme, ce n'est qu'une image, une pâle image de l'intimité que Dieu recherche avec nous. Il est dit d'ailleurs que dans les cieux, ça va être le mariage de l'agneau et de l'épouse. L'épouse qui est représentée par l'ensemble des croyants. Dieu va avoir cette relation d'intimité. Et pour qu'on puisse un peu savoir à quoi sa intimité amoureuse entre un homme et une femme, une petite idée de ce que ça peut être. Lorsqu'on est amoureux, on n'a pas honte de l'autre. On en parle aux autres. Lorsqu'on est amoureux, on est heureux de passer du temps avec l'autre. On est heureux de le voir. On ne pense qu'à lui. Ça peut aller à l'excès où on perd son équilibre. Et quelque part, Dieu veut qu'on soit un peu fou pour lui. Il veut qu'on ait cet amour, cette passion pour lui. N'ayez jamais peur d'être trop amoureux de Dieu. Jean nous rapporte les paroles de Christ dans la lettre à Éphèse. Revenez à votre premier amour. La foi, c'est une question d'amour de Jésus-Christ. Cet amour que nous pouvons avoir, Dieu nous le renvoie, par l'Esprit Saint, il nous le déverse dans nos cœurs, et c'est cet amour qui peut changer le monde autour de nous. C'est cet amour qui va attirer les autres parce que, comme le disaient les Beatles, tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour. L'homme est fait pour aimer Dieu, et nous vivons dans un monde qui a remplacé cette belle chose par une perversion de sexualité, d'immoralité, de non-stabilité, qui cause bien des malheurs, au lieu d'être une source de bonheur, c'est une source de malheur. Le cantique des cantiques. On a parlé des grands prophètes, alors c'est pas parce qu'ils mesuraient 1m80, par rapport aux petits prophètes qui ne mesuraient qu'1m50, c'est pas non plus parce qu'ils étaient beaucoup plus importants que les petits prophètes, c'est simplement parce que leurs écrits sont plus volumineux, il y a plus de versets écrits par ces grands prophètes que par les petits prophètes, mais ça n'entache en rien l'importance des uns ou des autres. Ésaïe, c'est le prophète messianique, il parle de la prophétie du Messie, et c'est un livre d'une richesse inouïe, qui comporte combien de chapitres? 66, autant qu'il y a de livres dans la Bible. Il y a le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, lui, c'était quelqu'un qui pleurait comme une madeleine, on dit en français, pour dire qu'il pleurait beaucoup. Il a écrit des lamentations aussi. Il avait une réponse affective à la désolation de son pays, de sa nation, de la ville de Jérusalem. Et il devait annoncer des mauvaises nouvelles, l'envoi en exil de son peuple. Il appelait les gens à se repentir, mais rien n'y faisait, et ça le conduisait à être dans la déprime, dans les pleurs complètement. Ézéchiel, lui, parle de la restauration future d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie, elle s'est déjà réalisée en 1948. Le peuple juif a été réuni en nation près de 2000 ans après avoir été dispersé, et ça c'est une chose unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a d'autres prophéties qui se trouvent dans Ézéchiel qui semblent être sur le point de se réaliser. C'est une étude fascinante. On a enfin vu le prophète Daniel et ses aventures sous deux empires. Le premier empire, c'était lequel? Babylone. Et le deuxième, c'était les Mèdes et les Perses, hein, grosso modo les Perses. Il est très intéressant parce que ces prophéties s'attachent essentiellement aux païens. Encore une fois, le fait que Dieu ait choisi les Juifs pour venir, pour s'incarner sur la terre, ne veut en rien dire que les Juifs sont ses chouchous et qu'ils n'aiment pas le reste de l'humanité. Comme j'aime l'expliquer, il a fallu trouver une nation pour arriver, pour atterrir sur la terre. Il aurait pu choisir les Corses ou les Bretons, même les Luxembourgeois, pourquoi pas. Mais il a choisi le peuple juif, et le peuple juif, il lui avait donné une grande mission, c'est celle d'annoncer l'amour de Dieu à toutes les peuplades, tous les peuples de la terre, toutes les, ce que la Bible appelle les nations. Et le fait que le peuple juif n'ait pas accompli cette mission, et qu'au lieu de partager l'Ancien Testament, la parole de Dieu qu'ils avaient reçue comme une bénédiction pour toutes les autres nations qui les entouraient, ils en ont fait un sujet d'orgueil national. Ils se sont crus plus forts, plus favorisés que les autres parce que Dieu leur avait parlé. Et à cause de ça, Dieu a décidé de les mettre sur la touche pendant un temps, et c'est la fameuse prophétie de Daniel 9, des 70 semaines, où, à partir du moment où le décret de reconstruire Jérusalem a été accordé, il y a 69 semaines jusqu'à ce que le temps d'Israël revienne. Et ça, on l'a expliqué en détail, je vous renvoie aux études sur ce sujet, donc qui sont disponibles sur cassette et internet. Ça a été le temps, c'est le temps de l'Église. Maintenant, Dieu s'occupe des païens, c'est-à-dire de nous, qui ne sommes pas juifs, peut-être parmi vous il y a des personnes d'origine juive, mais Dieu s'occupe des païens, et c'est ce qu'on appelle l'Église. Les petits prophètes, encore une fois simplement parce que leurs écrits ne sont pas aussi volumineux, il y en a combien, les petits prophètes ? Il y en a 12. 12, c'est les pages du milieu, là, celles qu'on ne lit pas souvent. Osée, c'est le prophète à qui Dieu avait demandé d'aller épouser une prostituée pour montrer que Dieu aimait toujours Israël, même si Israël avait cédé à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, spirituellement, ça se compare à l'adultère, c'est le manque de fidélité à quelqu'un qui vous aime. Donc Osée, c'était le prophète du rejet de Dieu du royaume du Nord. Joël, le prophète Joël, lui parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est l'arrivée de la fin des temps, c'est un peu ce qu'on a vu dans l'Apocalypse. Amos, un berger, qui parler du règne ultime de la maison de David. Il y a un prophète moins connu, Abdias, en anglais Obadiah. Lui, il parle de Édom, du royaume d'Édom, et de sa chute. Jonas, lui, il est bien connu pour avoir passé du temps dans la baleine. C'était pas une baleine, c'était simplement un gros poisson. Parce qu'il refusait d'aller annoncer la bonne nouvelle à la ville de Ninive, une grande ville assyrienne. Micha en anglais, c'est le prophète qui a annoncé la naissance du Messie à Bethléem. C'est aussi celui qui nous a dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Thème qu'on avait étudié à Saint-Martin de Vésubie il y a deux ou trois mois. Un autre prophète est retourné à Ninive, c'est le prophète Nahum, N-A-H-U-M, pour avertir la ville de Ninive de la colère de Dieu s'il ne se repentait pas, mais la ville ne s'est pas repentie et elle a été détruite. Aujourd'hui, Ninive, c'est de l'archéologie. prophète intéressant, c'est aussi Habacuc. Et sa question, c'est pourquoi est-ce que Dieu utilise des gens pires que nous pour nous juger? On sait que Dieu avait choisi d'utiliser les Chaldéens, c'est un autre nom pour les Babyloniens, pour punir Israël, Juda, qui ne marchait pas avec Dieu. Et ce prophète ne comprenait pas pourquoi Dieu pouvait choisir des instruments aussi indignes pour punir le peuple de Dieu. Ce prophète nous a aussi donné ce verset, « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi, ça c'est une source d'une trilogie dans le Nouveau Testament. Il y a un triple commentaire dans le Nouveau Testament sur ce verset. Romains, c'est le juste. Aux Hébreux, où il est question de la foi, des héros de la foi, c'est le troisième volet, c'est le juste vivra par la foi. Et ça, c'est, on avait rappelé, c'est ce qui avait conduit Luther à se séparer de l'Église catholique dans les années 1500 et quelques, 1550, 1560, lorsqu'il avait réalisé que tout ce qu'il fallait pour être sauvé, c'était simplement la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice. L'Église catholique, qui était l'Église dominante à l'époque, avait perverti l'enseignement de la Bible, influencé par les traditions humaines, par une papauté qui avait pris un schéma temporaire, dans le sens où elle était structurée comme le royaume, comme l'Empire romain, avec un empereur à la tête, alors que seul Jésus est notre intermédiaire entre nous et Dieu le Père. Ça avait été une révélation pour lui, c'est en fait tout ce qu'il faut pour être justifié, c'est d'avoir la foi en Christ. Donc tout ça, c'est dans Habacuc qu'on le trouve. Un prophète moins connu, Sophonie. Sophonie, c'est en anglais, c'est Zephaniah. Et Sophonie, lui, il a prédit qu'un jour, il y aurait un langage pur qui reviendrait en Israël. Et quelque part, certains voient là la prophétie que la langue hébraïque, l'hébreu ancien, redeviendrait une langue vivante. Ça aussi, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité, une langue morte qui redevient une langue vivante. Il n'y a pas d'autres exemples, et certains pensent que c'est vraiment un accomplissement de cette prophétie. Un très beau verset dans Sophonie, c'est, on a souvent parlé, il y a des versets repères, il y a des versets 3.16, comme Jean 3.16, 2 Timothée 3.16, c'est des passages qu'il est important de connaître. Là, c'est Sophonie 3.17, qui est un message à portée messianique, bien sûr, mais c'est aussi un message d'amour pour tous ceux qui se reconnaissent en Christ, et qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour pour toi, il aura pour toi une triomphante allégresse. » Et quelque part, de penser que Dieu peut se réjouir de moi, ça doit être quelque chose qui doit nous motiver dans notre vie de chrétien, de réaliser que Dieu, on peut plaire à Dieu. Et il y a des passages qui disent comment marcher pour lui plaire à tous égards. Agé, ou Haggai en anglais, c'est le prophète de la reconstruction du temple. Zacharie, il a toutes sortes de prophéties très intéressantes. Il a un livre très riche, avec de nombreux chapitres. Il n'est pas si petit que ça. Il y a 14 chapitres dans Zacharie. Il nous parle notamment du retour de Christ. Il a ce verset qu'on connaît bien qui dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est pour parler de l'œuvre des chrétiens. À l'époque, c'était la reconstruction du temple. Il y avait un champ de ruines. Le temple avait été complètement démoli. Et il fallait reprendre et retrouver les pierres et reconstruire le temple. Et devant le découragement du gouverneur Zorobabel, Dieu l'avait encouragé en lui disant « C'est pas par la puissance, c'est pas en amenant des grues spéciales ou des milliers d'esclaves, c'est pas avec des gens super musclés ni par la force, mais c'est par mon esprit que ça va être possible. » Et ça, c'est une description de toute œuvre faite pour le Seigneur. C'est pas par nos propres ressources, par nos propres énergies qu'on peut compter, réussir, mais c'est en se confiant en Dieu, en son esprit. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a tendance à vouloir reprendre les choses en main, à compter sur nos ressources, sur les gens qu'on connaît, les choses qu'on sait faire, etc., pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et puis finalement, Malachie, c'est le message final de Dieu à son peuple qui lui désobéit. Ça termine l'Ancien Testament. C'est là que Dieu annonce à Israël qu'il le trahisse, qu'il le frustre, qu'il le trompe. Et ils lui disent « En quoi pouvons-nous te tromper ?» Il a dit « C'est parce que, en fait, quand vous venez m'apporter la dîme, vous me donnez des animaux de second choix, vous ne me donnez pas ce que vous avez de mieux. » Ça, c'est le Malachie 3:10. On a donc parlé des sièges de Jérusalem. Il y a eu plusieurs sièges sous le roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. Le premier siège avait conduit à ce qu'on appelle la servitude de la nation. Et ça s'était terminé par le décret de Cyrus, 70 ans exactement après. Il y avait eu un troisième siège qui avait commencé plus tard, et là qui avait conduit à la destruction de Jérusalem, pardon. Et c'est ce qu'on appelle la désolation de Jérusalem. Et c'est important de réaliser que la servitude de la nation et la désolation de Jérusalem, c'est deux choses différentes, à deux dates différentes, l'une correspondant au premier siège et l'autre au troisième siège. C'est intéressant parce que dans le prophète Ézéchiel, on avait vu, et on peut y revenir, si c'est quelque chose d'assez saisissant. Ézéchiel, vous vous souvenez, c'était Dieu lui demandait de faire des choses visibles par les autres pour parler au peuple. Et à un moment donné, il avait dit « Toi, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et tu l'assiégeras, qu'elle soit en état de siège. » C'est un signe pour la nation d'Israël, pour la maison d'Israël. « Et toi, couche-toi sur le côté gauche, mets-y la faute de la maison d'Israël, tu porteras leur faute autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je t'impose un nombre de jours égal à celui des années de leur faute, 390 jours. Tu porteras ainsi la faute de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » 340 jours et 40 jours, c'était le nombre d'années où Jérusalem, où le peuple juif avait désobéi à Dieu. Ils avaient déjà été punis avec la captivité par 70 ans. Il restait 360 ans de punition à recevoir de la part de Dieu. Dans le Lévitique, il est question de multiplier les punitions par 7 si les gens ne se repentent pas. Il y a plusieurs passages qui disent que lorsque les gens ne se repentent pas, les punitions sont multipliées par 7. Si on multiplie ces 360 années par 7, on arrive à 2520 années. Quand on fait les calculs précis, Sachant qu'à l'époque, les années étaient de 360 jours, qui a maintenant, avec notre calendrier, des années bissextiles, où on rattrape le décalage des 365 jours et quart, ou à peu près. Si on ajoute ces 2520 années à la servitude de la nation, on arrive exactement à la date du 14 mai 1948, qui est la date de la déclaration de Balfour, où l'État d'Israël est redevenu une nation. Le 14 mai, ça a été déclaré. Le 15 mai 1948, au matin, la nation d'Israël était de nouveau une nation existante. Si on ajoute ces 2520 ans à la fin de la désolation de Jérusalem, on arrive à la date du 7 juin 1967, date à laquelle les troupes israéliennes ont pris le contrôle de Jérusalem. Alors on peut dire des tas de choses, mais une chose est certaine, c'est que la Bible, c'est un message qui nous est venu d'ailleurs. Dieu authentifie son message en donnant des prophéties qu'on peut vérifier à la lettre. Et ces prophéties, parce que Dieu est en dehors du temps, elles nous montrent que le message qu'on a à notre disposition, qui nous suffit de lire, c'est un message authentique. Ce n'est pas une chose qui a été inventée par les hommes, une chose qui aurait été déformée par les hommes. C'est un message dont on peut vérifier l'authenticité par le système des prophéties qui est unique dans tous les écrits religieux de l'humanité. Avec tout ça, il n'empêche que l'Ancien Testament est incomplet, comme le dit Chuck Missler, qui est l'auteur qui a commencé ce genre d'études en 24 heures et dont je me suis en grande partie inspiré. Il nous dit que l'Ancien Testament nous laisse avec des rituels religieux qui ne sont pas expliqués, tous les sacrifices, on comprend mal. Il y a des alliances qui ne sont pas achevées. On a vu les alliances avec Abraham, avec Noé, tout ça, et on ne sait pas trop où ça s'arrête, où ça continue. Les livres poétiques, ça nous parle des aspirations qui ne sont pas satisfaites. Les gens ont envie d'avoir cette intimité avec Dieu. Quelque part, on a cette soif qui n'est pas satisfaite. Il y a des tas de prophéties qui se sont réalisées, mais il y a encore des prophéties qui ne sont pas réalisées. Et la question, c'est comment ces choses vont se réaliser, comment ce testament va-t-il être complété. Jésus nous a répondu, Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures, il parlait aux chefs religieux de l'époque, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Toutes ces choses vont se réaliser en Jésus-Christ. Elles n'étaient pas encore réalisées parce qu'il fallait que Jésus-Christ vienne sur la terre, d'abord une première fois, et beaucoup des prophéties qui ne sont pas encore réalisées, c'est parce qu'elles vont se réaliser à sa deuxième venue, à son retour sur la terre. On a vu aussi la façon dont la Bible nous était parvenue, et on a attaqué le Nouveau Testament. Là aussi, il y a 5 livres historiques, les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean et les livres des actes des apôtres. Dans ces livres, on a vu Jésus présenté sous différents aspects. Dans Matthieu, il est le Messie d'Israël. Et en cela, il est le lion qui revient, qui est décrit dans l'Apocalypse ou dans Ézéchiel, ou qui était l'emblème qui flottait sur les étendards dans le camp d'Israël autour du tabernacle pendant la traversée du désert. Dans Marc, il est présenté comme le serviteur qui souffre. Il correspond au bœuf, qui est un animal qui sert l'homme. Dans Luc, il est présenté aux Grecs comme le fils de l'homme. Il y avait un étendard qui représentait l'homme. Et dans Jean, il est présenté à l'Église comme le fils de Dieu, l'aigle. On a déjà fait remarquer que dans l'Ancien Testament, on voit Christ dans les prophéties. Quelque part, ça veut dire « voyez, il va venir, il vient ». Les évangiles, c'est Christ dans l'histoire. « Voyez, il meurt ». Actes, c'est Christ dans l'Église. « Voyez, il vit ». Les épîtres, c'est Christ dans notre expérience. « Voyez, il sauve ». Et finalement, l'Apocalypse, c'est Christ dans sa gloire à venir. C'est « Voyez, il règne ». On a parlé de l'Apocalypse, du plan divin qui demande à Jean de parler des choses qui sont, qui étaient, qui sont et qui vont venir, la description de la vision de Jésus, les sept lettres aux sept églises, et puis le reste, c'est la fin des temps. Et on a dit qu'en fait, la façon de concevoir la fin des temps, elle dépendait de notre façon d'interpréter l'Écriture, d'interpréter la Bible, de la comprendre. Est-ce qu'on dit, en la lisant, c'est tout symbolique, ou est-ce qu'on dit, Dieu est capable de parler clairement, il nous dit ce qu'il veut nous dire, et il veut nous dire ce qu'il nous dit. Autrement dit, on a des règles pour comprendre ce qu'il dit, et généralement, une autre façon de dire, c'est que votre herméneutique va déterminer votre eschatologie. L'herméneutique, c'est la façon d'interpréter le texte, et l'eschatologie, c'est la conception des temps de la fin. On a vu que plus on est prêt à prendre la lettre à la lettre ce que la Bible nous dit, tout en faisant preuve de bon sens pour comprendre qu'il y a des passages qui sont poétiques, il y a des passages qui sont des livres d'amour, comme le Cantique des Cantiques. Lorsque, par exemple, le bien-aimé décrit sa bien-aimée en disant que chacune de ses chèvres est bien blanche et qu'elle a sa sœur jumelle avec, ça veut simplement dire qu'elle a encore toutes ses dents et que ses dents sont bien blanches. Donc, en prenant en compte des règles de bon sens pour interpréter, on a vu qu'en fait, si on interprétait littéralement ou le plus près du texte, on devait être d'accord pour une vision pré-tribe, pré-millénium, c'est-à-dire que l'Église va être enlevée avant que ne commence une période de 7 ans, la 70e semaine du prophète Daniel, qui va précéder cette période de 7 ans, qui, à la fin de laquelle Christ va revenir établir un règne de 1000 ans, à la fin duquel il y aura la création de nouveaux cieux, de nouvelles terres. C'est réconfortant de savoir que si on est chrétien, on verra la grande tribulation depuis le balcon, depuis le ciel. Encore une fois, la structure du texte de la Bible, elle n'est pas laissée au hasard, c'est un système intégré de messages. On voit comment tout est ficelé, il est important de bien connaître la Genèse, connaître toute la Bible, et puis de voir l'Apocalypse seulement à ce moment-là. Mais on peut voir un parallèle, des choses qui sont commencées dans la Genèse sont finalement explicité dans l'Apocalypse. Au début, il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous dit « Je vis un nouveau ciel, de nouveaux cieux et une nouvelle terre » dans l'Apocalypse. Dans la Genèse, l'obscurité est appelée la nuit. Dans l'Apocalypse, il n'y aura plus besoin de nuit. Dieu avait fait deux grands luminaires, le ciel, le soleil et la lune, pour l'homme, sur la terre. Il est dit que la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, n'aura plus besoin de soleil et de lune, ni de lune, parce que Dieu l'habitera dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. La promesse qui avait été faite à Adam, c'était que le jour où il toucherait, il mangerait du fruit de la connaissance du bien et du mal, il mourrait sûrement. Dans l'Apocalypse, nous avons la promesse qu'il n'y aura plus jamais de mort. Satan apparaît comme celui qui trompe l'humanité dans la Genèse. Satan disparaît pour toujours dans l'Apocalypse. La démarche, l'intimité de vie entre l'homme et Dieu a été interrompue à cause du péché dans la Genèse. Elle reprend dans l'Apocalypse. On a vu le triomphe initial du serpent, mais on voit le triomphe final de l'agneau. Et ainsi de suite, on pourrait faire toute une étude sur ce passage, mais on voit qu'en fait, c'est vraiment un ensemble bien, bien compact. Le thème central, c'est que le Créateur de l'univers nous aime et qu'il est devenu homme. Il est venu, sa venue, c'est l'événement central de l'histoire de l'humanité. Il est mort pour nous racheter. Et il est vivant aujourd'hui, notre plus grand privilège, notre plus grand objet, la chose la plus formidable à poursuivre dans notre vie, c'est de le connaître, de chercher à le connaître et à le servir. Il y a à peu près 8362 versets qui parlent de 1800 prophéties sur plus de 700 sujets, Et jusqu'à présent, elles se sont toutes accomplies à la lettre, et rien ne laisse présumer qu'elles vont cesser de s'accomplir à la lettre. Les grands sujets de prophétie, c'est Israël, bien sûr, le véhicule par lequel le Messie est arrivé. Jérusalem, aujourd'hui encore, c'est une source de problèmes pour le monde entier. Le temple va être construit. Jésus, Paul, Jean nous l'annoncent. On voit aussi des blocs de puissance qui se constituent. La Russie qui doit envahir un jour Israël. La Chine qui émerge comme une hyperpuissance. L'émergence de l'Europe unie qui est un réveil de l'Empire romain. La religion œcuménique où on doit tolérer tout le monde. C'est-à-dire que la vérité, on l'abandonne à l'entrée. Quelqu'un disait une seule religion peut avoir raison. C'était l'athée, l'anglais, Huxley qui disait ça. On parle aussi d'un gouvernement global. C'est intéressant que maintenant on commence à parler de globalisation. L'importance, l'augmentation de l'intérêt des gens pour l'occulte, c'est prédit dans la Bible. L'immoralité, c'est prédit dans la Bible. On voit l'immoralité du monde occidental. Hollywood qui prône l'adultère. Tous les 10 commandements sont violés systématiquement. C'est ce qui fait de l'argent. C'est ce qui amène les gens à se distraire en voyant ces choses. On voit qu'en fait, la Bible, c'est le mode d'emploi. C'est le manuel de l'homme pour comprendre le monde dans lequel il vit. Comprendre qu'il y a un Dieu qui l'aime, qu'il n'est pas tout seul. Et que cette vie, c'est simplement une goutte d'eau dans l'océan d'éternité. Notre futur dépend de nous. Dieu a tout fait pour nous. Notre futur dépend de notre relation avec ce Dieu qui est venu nous sauver. Jésus, son nom veut dire Yehovah Shua, Jésus sauve. Si je le rejette, je rejette le salut de Dieu et je ne peux pas espérer autre chose que ce que la Bible appelle la perdition. La perdition, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas de croire tout ce que je vous ai dit. L'important, c'est que vous-même, vous recherchiez pour vous-même ces vérités. Et n'importe qui peut prier. Dieu nous a promis l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous permettre de comprendre toute la Bible. Vous pouvez rechercher vous-même ces choses, lire la Bible. Ma prière, c'est que ça devienne une passion pour vous. C'est que ça devienne votre violon dingue, votre hobby. Et on sait combien les hommes dépensent d'argent pour leur loisir favori. Moi, avant de devenir chrétien aux États-Unis, j'étais fanat de pêche. Pêche du saumon de rivière, ce qu'on appelle là-bas des steelheads. Je me levais à 4 heures du matin, le week-end, pour aller pêcher. J'étais fatigué par la semaine, mais je préparais mes affaires de pêche toute la nuit. Je dormais 2-3 heures pour aller essayer d'attraper un poisson. Le jour où j'en ai attrapé un, c'est moi qui ai été attrapé, c'est pas lui qui a été attrapé. C'était devenu une passion qui m'empêchait de passer du temps avec Nancy. Elle disait qu'elle était une veuve de pêche. Je la laissais le samedi, on se voyait pas, si je ramenais un poisson, j'étais tout fier. C'était devenu une idole, je passais beaucoup de temps et ça ne m'a rapporté rien. Des photos que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Vous pouvez commencer à étudier la Bible, en faire une passion. Ça coûte pas cher. Vous pouvez acheter une bonne Bible, un livre qu'on appelle une concordance qui vous permet de retrouver tous les endroits dans la Bible où un mot est utilisé. Vous pouvez acheter des commentaires. Ce soir, je vais même vous donner un CD avec une foule d'informations. C'est en anglais, je suis désolé, il n'y en a pas en français encore. Mais si ça vous intéresse, c'est pour vous. Il y en a qui veulent ? Oups, pardon. C'est sur ordinateur. Si vous en voulez d'autres, j'en ai regardez, je vous en prie, regardez-les et commencez à vous laisser passionner par la Bible. I have more. Pas ici, mais je peux en donner d'autres. On a... C'est bon. Non. Si vous en voulez, j'en ai d'autres. Tout ça pour dire que ma prière, c'est que vous deveniez des étudiants de la Bible. Il y a une richesse, d'autant plus si vous êtes prêts à vous laisser conduire par la Bible. C'est pas le tout d'avoir une connaissance intellectuelle, c'est de la mettre en pratique dans votre vie. Il y a des statistiques qui disent que les chrétiens vivent plus longtemps. Alors peut-être que vous en avez marre de la vie, vous ne voulez pas vivre plus longtemps, mais les règles de vie qui nous sont prescrites par la Bible, c'est les règles du Créateur. Les gens qui vivent selon la Bible, qui ne vivent pas dans le péché et dans la folie, dans l'immoralité, ils vivent plus longtemps. Vous cherchez un sens à votre vie, il est là dans ce livre. Moi, ça a révolutionné ma vie. Je ne sais pas où je serais maintenant, je serais sans doute pas. On serait sans doute séparés depuis longtemps avec Nancy. On n'aurait pas eu la vie abondante et riche que nous avons eue et que nous avons et que nous allons encore avoir, j'en suis sûr. Pas une vie exempte de problèmes et de difficultés, de tragédies même, mais de savoir qu'il y a un Dieu qui est présent et qui nous aime, c'est la plus belle chose qu'on puisse apprendre dans la vie. Amen. Amen. Prions. Seigneur, pardonne-nous d'avoir si rapidement survolé toute ta parole, mais nous voulons te remercier de l'avoir préservée, de nous avoir permis de l'avoir à notre disposition, Seigneur. Aide-nous à ne pas négliger cette opportunité de te connaître, de connaître ta volonté, de rechercher ta volonté pour chacune de nos vies individuelles. Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus, pour ton amour qui a fait que tu es venu mourir pour nos péchés, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle avec toi. Seigneur, apprends-nous à étudier ta parole, Seigneur, à la connaître et surtout à la mettre en pratique. Seigneur, qu'elle transforme nos vies, qu'elle transforme nos familles, nos villes, notre pays, Seigneur, l'humanité. C'est ton amour pour les hommes, Seigneur, qui t'a conduit à faire ces sacrifices. Merci pour Jésus, Seigneur, qui est le sujet de ce livre merveilleux. Par le nom de Jésus, Amen. Amen.